Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute, Alexis Orzensfak au micro pour le bulletin dont voici les titres. Le vice-ministre tchèque de la Défense a été relevé de ses fonctions après avoir été mouillé dans une affaire de corruption. C'était la rentrée scolaire aussi en République tchèque. Et puis du sport avec du foot et le tchèque David Rozehnal qui rejoint le club de Lille en France. Le ministre tchèque de la Défense, Alexander Vondra, a relevé de ses fonctions le vice-ministre Jaroslav Kopchiva. Selon le journal Mladá Fronta Dnes, Jaroslav Kopchiva aurait demandé une commission pour une importante commande de matériel militaire. Il préparait avec le lobbyiste Josef Jindra un contrat pour l'achat de mortiers pour l'armée tchèque et c'est la société finlandaise Patria qui devait livrer ses engins. Le ministre a promis d'expliquer cette affaire et il a déjà annoncé ce mercredi la création d'un nouveau département chargé de superviser les acquisitions suite à ce nouveau scandale. Le président tchèque Václav Klaus s'est exprimé mercredi sur les restrictions budgétaires dans le domaine de la diplomatie tchèque. Devant un parterre d'ambassadeurs tchèques réunis au château de Prague, il s'est interrogé sur le bien fondé de la présence de représentations diplomatiques dans une série de petits pays membres de l'Union européenne, ces pays ne pouvant être selon lui considérés comme des territoires étrangers dans le sens usuel du terme. Dans le même temps, le chef de l'État a averti que les coupes budgétaires ne devaient pas se faire de manière précipitée. La semaine dernière, rappelons que le ministère des Affaires étrangères a annoncé la fermeture de 5 ambassades au Congo, au Venezuela, au Kenya, au Yémen et au Costa Rica. Plus d'un million d'écoliers et d'étudiants tchèques ont fait leur rentrée ce 1er septembre. Au cours de cette année scolaire, certains élèves du cours préparatoire commenceront à tester un nouveau type d'écriture appelé Comenia Script, un nouveau type d'écriture qui est censé être plus moderne et plus facile à apprendre. Les étudiants de terminale passeront quant à eux cette année pour la première fois le baccalauréat national. Le ministère du Développement Régional a créé une commission chargée d'obtenir davantage de fonds européens à partir de l'année 2013. Dans ce groupe d'experts figurent notamment l'ancien eurocommissaire tchèque et deux eurodéputés. Réunis pour la première fois cette semaine, la commission a défini les besoins et les futures priorités. Pour la période 2007-2013, rappelons que la République tchèque n'a pas encore dépensé le quart de ses fonds qui lui ont été alloués. On passe au sport avec du football. Je vous le disais en titre, le défenseur international tchèque David Rozehnal rejoint le club français du LOSC à Lille où il est prêté une saison par Hambourg. L'international tchèque âgé de 30 ans évolue au poste de défenseur central. Il a déjà évolué en France entre 2005 et 2007 dans le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain, où il a joué avec deux joueurs qui sont aujourd'hui lillois, à savoir Pierre-Alain Fraud et le gardien Michael Landreau. Après son passage à Paris, rappelons que David Rozehnal avait joué à Newcastle en Angleterre, à la Lazio de Rome et à Hambourg dans la Bundesliga. Un mot de météo pour finir. Avec ce jeudi, toujours un ciel nuageux en République tchèque et quelques passages pluvieux, les températures maximales devraient être situées seulement entre 15 et 19 degrés. C'était les infos et dans un instant, c'est la suite du programme en français de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des faits et événements. En République tchèque, le 1er septembre sonne le glas des vacances scolaires. 1,2 million d'élèves ont pris le chemin de l'école ce mercredi matin. Une entrée scolaire qui est placée cette année sous le signe du changement. Vous le savez, la Mostra de Venise a commencé, aucun film tchèque n'y est représenté, mais le dernier film du réalisateur surréaliste tchèque Jan Švankmajer y est projeté. Les détails dans quelques minutes. En fin d'émission, on parlera de football avec Petr Čech et Vladimir Šmicer. Mardi prochain, en effet, à Olomouc, l'équipe nationale tchèque disputera contre la Lituanie son premier match de qualification pour le championnat d'Europe 2012. Un match où les Tchèques espèrent bien se refaire une santé après leur qualification ratée au Mondial. Ce sera avant de passer à la rubrique historique. Bonne écoute de ce programme. Je vous lisais en titre, c'est la rentrée des classes ce mercredi pour 1,2 million d'élèves tchèques de la maternelle au lycée. Une rentrée scolaire 2010 un peu spéciale cette année puisqu'elle entérine de nombreux changements dans la sphère de l'enseignement en République tchèque. Un baccalauréat national pour les lycées, une nouvelle écriture pour les primaires et de nouvelles matières à intégrer au programme scolaire. Telles sont en résumé les principales nouveautés qui attendent les élèves tchèques à partir de ce 1er septembre. Et c'est évidemment le nouveau baccalauréat national qui représente la petite révolution de la nouvelle année scolaire. Il aura fallu 14 années de préparatifs et la fronde d'une partie des élèves et enseignants avant que le nouveau gouvernement Nečas ne lui donne le feu vert définitif. Coup d'envoi dès cet automne avec, dans certaines écoles pilotes, des examens de maturité blancs, comme le rappelle le ministre de l'Éducation, Josef Dobeš.
Je rappelle qu'en octobre, nous attend une sorte de répétition générale. Nous avons encore laissé les écoles s'inscrire pour pouvoir y participer. Un grand nombre d'écoles secondaires a d'ailleurs répondu à l'appel.
Autre nouveauté, l'introduction de nouvelles matières aux primaires, des matières certes optionnelles mais alternatives, telles que de la danse, des cours d'éthique ou encore de cinéma. C'est à chaque établissement que revient ensuite le choix d'intégrer l'option, par exemple, dans le cadre d'une autre matière. C'est ce qu'a fait cette école élémentaire pragoise, comme le précise sa directrice Jitka Volkova. Nous nous intéressons déjà à ces domaines par l'intermédiaire de notre enseignement consacré aux médias. À l'intérieur de cette matière, nous avons un cercle cinéma et un cercle théâtre. Donc nous intégrons cela dans le cadre des activités libres. Enfin, autre petite révolution prévue, le lancement d'un nouveau style d'écriture pour les primaires, les CP. D'environ 40 écoles pilotes vont ainsi tester une nouvelle écriture script qui doit remplacer la traditionnelle écriture cursive jusque-là en vigueur. Une écriture baptisée Comenia Script, du nom du célèbre pédagogue tchèque du XVIIe siècle, une police de caractère qui est censée faciliter l'apprentissage de l'écriture, comme le précise Antonie Landova, membre de l'équipe pédagogique d'une école de Friedek Mistek en Moravie. Il s'agit d'une forme d'écriture simplifiée, plus proche de l'écriture imprimée, qui est celle avec laquelle les enfants communiquent aujourd'hui, que ce soit par SMS ou par mail. C'est donc une écriture lisible, même s'ils écrivent vite. Nous pensons que grâce à la forme des lettres, la personnalité des élèves pourra mieux s'épanouir. Cette écriture encourage la créativité, la lisibilité et l'aspect fonctionnel à l'ère de l'informatique. Si cette nouvelle écriture fait ses preuves, elle pourrait commencer à être utilisée dans toutes les écoles à la place de la traditionnelle cursive. Mais son adoption définitive sera encore l'objet d'un débat. Le Festival international du film, la Mostra de Venise, vient de commencer. Bien qu'aucun film tchèque ne figure dans la compétition, la Tchéquie n'est pourtant pas absente au festival, grâce au dernier opus du réalisateur Jan Švankmajer, qui sera présenté hors compétition. Comme il fallait s'y attendre, ce n'est pas, et de loin, une œuvre conventionnelle. Václav Richter.
Depuis un demi-siècle, Jan Švankmajer continue à étonner et parfois choquer son public par l'originalité de ses films. Ce surréaliste a réussi une curieuse symbiose entre le cinéma et les arts plastiques. Le cinéma est pour lui l'objet d'incessantes recherches et au cours de sa carrière, il n'a jamais cessé d'innover au niveau de la forme. Avec une virtuosité époustouflante, il marie dans ses œuvres le jeu d'acteur avec les procédés d'animation et assaisonne ses cocktails d'une forte dose d'humour noir. Et c'est dans cette lignée qu'il faudra situer probablement aussi son dernier film qui aura sa première au Festival de Venise. Personne n'a encore vu cette œuvre, mais l'artiste en a parlé en ces termes.
C'est écrit comme un film d'acteur normal avec le sous-titre « Comédie psychanalytique ». Cela s'appelle « Survivre à sa vie » et c'est une combinaison du film d'acteur et du film d'animation. Dans les passages d'animation, on voit cependant les comédiens animés, c'est-à-dire les photos d'acteurs animés. Cela donne finalement l'impression d'un film d'acteur parce que même les photos parlent. Nous avons des photos de toutes les syllabes que les comédiens prononcent et les photos parlent d'une façon assez convaincante. Ce sera donc un film assez particulier. Moi-même, je suis curieux de le voir.
Cette comédie psychanalytique qui raconte la vie d'un homme tiraillé entre la réalité et le rêve est très attendue par tous ceux qui aiment le style Švankmajer. Parmi eux, il y a entre autres Tim Burton, Terry Gilliam ou Shane Acker, tous célèbres auteurs de films d'animation qui considèrent Jan Švankmajer comme leur maître. Selon le producteur de cette œuvre, Jaromír Kallista, Jan Švankmajer ne participe plus à des compétitions de cinéma car il est pratiquement impossible de fixer des critères objectifs pour les films en lice. Étant déjà lauréat de toute une série de prix internationaux, Jan Švankmajer n'a plus besoin de faire ses preuves. Il est d'ailleurs loin de surestimer ce genre de distinction.
Je pense que mon avis sur les prix est généralement connu. Dans quelques années, personne ne saura que j'ai reçu tel ou tel prix. Ce qui importe, c'est de savoir si dans quelques années, quelqu'un regardera encore mes films.
La première mondiale du film « Survivre à sa vie » aura lieu dans la grande salle du Palais de cinéma à Venise le 10 septembre prochain. C'est au Festival de Venise que le réalisateur fêtera aussi son 76e anniversaire.
Depuis mardi, l'équipe de République tchèque de football est réunie à Prague. Mardi prochain, à Olomouc, la Reprezentacja disputera contre la Lituanie son premier match de qualification pour le championnat d'Europe 2012. Il s'agira de sa première rencontre officielle depuis près de 11 mois. Et après une campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2010 ratée et décevante, les Tchèques entendent bien cette fois repartir du bon pied, comme l'ont confié d'abord leur gardien Petr Cech, puis leur manager Vladimir Schmitzer au micro de Guillaume Narguet.
Je pense qu'on est un petit peu impatient de commencer la nouvelle qualification parce qu'avec, après la déception de ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde, on était un petit peu tristes tous parce que c'était le but d'être qualifié pour la Coupe du Monde et depuis longtemps on n'était pas habitué de ne pas y aller. Et je pense qu'on a commencé une nouvelle ère avec un entraîneur Bilek. Et après le début difficile, quand on avait beaucoup de joueurs blessés, on était presque jamais complet comme une équipe. On est maintenant tous là, on est tous prêts à commencer la nouvelle qualification. Et j'espère qu'on va commencer avec la victoire.
Quel regard portez-vous sur la période justement entre ce dernier match contre l'Irlande du Nord et celui-ci qui arrive? Beaucoup de joueurs ont été essayés. Avec plus ou moins de réussite, l'équipe nationale a été quand même pas mal critiquée, notamment lors de la tournée aux États-Unis. Alors quel regard portez-vous par rapport à tout ça?
Je pense que c'était une période de transformation. On peut dire une transition entre l'ancienne équipe et une nouvelle équipe. On a changé de joueurs, on était en train d'essayer toutes les possibilités de jeunes joueurs qui jouent en Tchèque République ou qui jouent des championnats étrangers. Et je pense que tout le monde, ou surtout les entraîneurs, ils ont vraiment voulu voir avec qui ils doivent compter pour la qualification. Je pense que c'était difficile parce que on est vraiment habitué d'avoir des bons résultats et tout est pas très bien se passé. Mais je pense que ça nous a aidé de rebondir parce que c'est comme ça, on était vraiment bas quand on avait perdu le tournoi. Aux Émirats, après on était très moyen contre la Turquie, mais je pense que ça nous a vraiment aidé de rebondir parce qu'on savait que c'est pas vraiment le chemin ce qu'on veut faire. Et avec la victoire contre les États-Unis, je pense qu'on a vu une très belle réaction de tout le monde. La confiance est petit à petit revenue dans l'équipe et voilà, on a continué avec une victoire contre la Lettonie. Et là, je pense qu'on voit plus de tranquillité et confiance parmi les joueurs pour commencer la qualification.
Et c'est aussi avec pas mal d'impatience que Vladimir Schmitzer, désormais manager de l'équipe nationale, aborde cette nouvelle campagne de qualification. Après une année difficile, marquée de matchs amicaux et d'essais de nombreux joueurs pas toujours convaincants.
Pendant cette année, on avait beaucoup de matchs amicaux. Et au début, on a mal commencé, on a perdu quelques matchs, mais depuis le match contre les États-Unis, on a gagné 4-2. Je pense que l'équipe, ça commence à jouer à bon jour, qu'on est beaucoup mieux en ce moment. Et je pense qu'on est prêt. Je pense que notre équipe maintenant sait exactement bien comment il faut jouer. Chaque joueur, il connaît sa position. Et je pense que devant le premier match, qu'on est prêt.
pour ce match contre la Lituanie. Vous disposez de votre colonne vertébrale, c'est-à-dire Petr Cech dans les buts, Tomáš Rosický au milieu de terrain et Milan Baroš devant. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ce sont les trois leaders dans votre esprit de l'équipe?
Oui, c'était très important parce que ces trois joueurs, ce sont les joueurs de classe. Et quand eux, ils jouent bien, toute l'équipe joue beaucoup mieux. Alors c'est très important que ces joueurs soient physiquement bien et ils sont prêts à jouer. C'est vrai que Milan Baroš, il a encore petit problème avec les tendons d'Achille, mais j'espère que pour le match mardi, il sera prêt.
Vous pourrez entendre plus longuement Petr Cech et Vladimír Šmicer évoquer le présent et le proche avenir de l'équipe nationale tchèque, qui aura notamment l'honneur d'affronter l'Espagne, championne du monde, dans son groupe de qualification dans nos prochaines émissions. C'est ainsi que s'achèvent ces faits et événements, mais tout de suite, nous retrouvons la rubrique historique du mercredi.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Bonjour à tous les amateurs de l'histoire. Le 1er septembre, 700 ans se sont écoulés depuis le mariage de Jean de Luxembourg dit l'aveugle avec Elisabeth de Przemyslide, un événement qui a marqué l'histoire du royaume de Bohême ainsi que celle de l'Europe médiévale. Trois de leurs successeurs du couple fondateur d'une nouvelle dynastie, dont Charles IV, seront couronnés rois du Saint-Empire romain. La dynastie des Luxembourg régnera sur le royaume de Bohême jusqu'en 1526. À l'occasion du 700e anniversaire de l'événement, Jean de Luxembourg et Elisabeth de Przemyslide seront mis à l'honneur par une exposition qui se tiendra dans les locaux de la maison à la cloche de pierre dans la vieille ville de Prague. Cette même maison qui avait servi de résidence au couple à son arrivée à Prague en 1310. L'auteur de l'exposition, Clara Benešovská, de l'Institut national d'histoire de l'art, raconte comment s'est déroulé le jour de noces de Jean et Elisabeth il y a 700 ans de cela.
Le mariage royal de Jean l'Aveugle, qui était le fils de l'empereur romain Henri VII, et son mariage avec princesse de la maison des Přemyslides, Elisabeth, Eliška Přemyslovna, avait lieu à Speyer, dans la cathédrale impériale. Et ce mariage avait deux parties. Le 31 août, c'était le mariage qui était célébré par l'archevêque de Cologne, Henri de Württemberg. Et le lendemain, le 1er septembre, c'était Pierre d'Asfeld, l'archevêque de Mayence, qui a célébré cette cérémonie mariale de Jean et d'Elisabeth.
Le mariage de Jean l'Aveugle, fils unique du roi du Saint-Empire romain Henri VII et Marguerite de Brabant avec Elisabeth de Przemyslide a eu lieu après de longues tractations. Le dernier roi de Przemyslide, Venceslas III, étant mort assassiné sans héritier, Henri de Carinthie arrive sur le trône de Bohême. Or Elisabeth, sœur de Venceslas III, se considère héritière de la célèbre dynastie. Avec l'aide de l'abbé Conrad de Zbraslav, un coup d'état dynastique est organisé. La noblesse mécontente, le patriciat et le clergé finissent par se mettre d'accord pour demander au roi des Romains, Henri VII, nouvellement élu, de donner son consentement au mariage de Jean avec Élisabeth et à l'union des deux dynasties. Le 14 août 1310, Elisabeth quitte Prague avec une dot bien riche, plus de 1000 pièces d'argent pesant chacune 250 grammes et des robes et costumes brodés d'or. Le 30 août, elle arrive à la cour de Henri VII. Une description détaillée du déroulement du mariage nous est fournie par la chronique de Petr Žitavský, abbé du couvent des Cisterciens de Zbraslav. Clara Benešovská l'a déjà dit, le mariage se déroule en deux parties. Le 31 août, Henri VII confie le règne sur le royaume de Bohême à son fils Jean. La cérémonie religieuse est célébrée le lendemain, le 1er septembre 1310. À la surprise générale, Élisabeth s'y présente vêtue d'une robe toute simple, dans l'esprit de la tradition de la cour de Paris, à laquelle la mère et la grand-mère de Jean de Luxembourg, Marguerite et Béatrix étaient élevées. Le mariage influencera la culture, les arts, jusqu'au milieu du XVe siècle, raconte Clara Benešovská.
Jean avait seulement 14 ans, Élisabeth avait 18 ans, mais c'était le mariage très important parce que derrière Élisabeth était le royaume assez riche avec les mines de Kutná-Hora qui financer la politique de Luxembourg. Alors la décision de Henri VII, c'était, je crois, la décision très bien réfléchie parce que c'était vraiment une des familles les plus importantes, Přemyslides, qui ont joué vraiment le rôle important ici dans l'Europe centrale. Et le tronc de Bohême, c'était un tronc de haute qualité, liée aussi aux voix de prince électeur pour l'élection des rois romains. Alors, ce tronc de Bohême pouvait être seulement un avantage pour la maison des comtes de Luxembourg qui ont reçu le tronc du roi romain seulement en 1308. Alors cette alliance a joué un grand rôle parce qu'elle a influencé tout XIVe siècle dans la culture de l'Europe.
Après la cérémonie, Jean et Élisabeth se dirigent vers Prague, alors que le roi Henri VII est attendu à Rome pour la cérémonie de couronnement impérial. Hélas, sur le chemin, lui ainsi que son épouse trouvent la mort dans des circonstances dramatiques. D'un coup, au lieu de se consacrer uniquement aux affaires du royaume de Bohême, Jean de Luxembourg a, en dépit de son jeune âge, à faire face à tous les problèmes posés alors par la politique européenne. Les célébrations du 700e anniversaire du mariage royal sont une occasion de présenter la cour de Prague autour de l'an 1310. Les locaux historiques de la maison à la cloche de pierre, considérés comme la résidence des jeunes époux Jean et Élisabeth entre 1310 et 1320, vont créer un cadre authentique pour ce témoignage visuel. L'exposition aura lieu sous les auspices des maires de Prague et de Luxembourg, respectivement Pavel Bem et Paul Helminger. Elle aura pour emblème la couronne qu'aurait portée Élisabeth au moment du couronnement et dont on sait qu'elle faisait partie du trésor des rois de Bohême avant de devenir une partie du trésor de Neumarkt, Śląska Strzeda, sur le territoire de l'actuelle Silésie en Pologne. À la question de savoir si au cours des recherches pour cette exposition, de nouvelles découvertes ont été faites, Clara Benešovská dit, sans vouloir tout dévoiler à l'avance, que ce sont avant tout les nouvelles interprétations quant à la datation, lieu de naissance ou la fonction primitive des objets connus. Hormis cela, on a pu identifier de nouveaux fragments provenant des tombeaux de l'une des nécropoles princières de Přemyslides au château de Prague, dans la basilique Saint-Georges. Et on a découvert aussi des portraits inédits du roi Venceslas III. Une médaille commémorative représentant Jean et Élisabeth a été frappée pour l'occasion par la Banque nationale tchèque, alors que la partie luxembourgeoise émettra une pièce de monnaie commémorative d'une valeur symbolique de 700 centimes d'euros.
Thank you.
tout pour aujourd'hui en ce qui concerne l'actualité tchèque sur les ondes courtes de Radio Prague. Mais l'info continue, vous le savez, au www.radio.cz. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.